Le samedi 15 novembre, la salle des Bulieux d'Andrézieux-Boutéon accueillera la troisième édition du forum départemental Partageau 42, coordonné par les Amis du Treuil et porté par un collectif d'associations et de citoyens. Partageau vise à amener une réflexion autour de l'eau, sa gouvernance, son utilisation, ses ressources. Autant de sujets discutés lors de tables rondes et de débats menés par des personnes dont l'expertise nourriront les échanges, comme Valérie Valette que nous recevons aujourd'hui sur l'antenne de Radio Ondaine. Valérie Valette, vous êtes activiste eau et climat. Vous êtes cofondatrice de SOS Loire Vivante. Alors pour vous, ce sujet de l'eau, qu'est-ce que ça évoque quand on parle notamment d'un forum tel que Partageau s'emparer de cette question de l'eau, qu'est-ce que c'est pour vous ?
Bonjour, écoutez, c'est l'occasion pour les citoyens et citoyennes de se préoccuper du bien commun le plus vital qui soit, l'eau, la façon de la partager, notamment entre les différents usages que chacun peut développer en activité économique, mais aussi pour le bien-être et l'environnement.
Alors, l'eau, un bien commun et un sujet citoyen, c'est le titre, finalement, de ce forum départemental Partageau 42. Pourquoi le citoyen doit-il s'emparer de cette question ?
Parce qu'il est concerné au premier degré. On ne peut pas vivre sans eau. C'est un lieu commun avant d'être un bien commun. C'est une ressource absolument vitale qui, à l'heure actuelle, devient de plus en plus rare et précieuse. Elle l'a toujours été, mais avec le dérèglement climatique, on voit bien que maintenant, c'est devenu un enjeu majeur dont tout le monde doit se préoccuper de façon à pouvoir gérer ça au mieux de ses intérêts et de la nature également.
Alors, qu'est-ce qu'on questionne dans des réflexions telles que celle-ci ? Effectivement, on allume son robinet, l'eau coule. On a besoin de l'eau dans l'industrie. On a besoin de l'eau également dans le monde agricole. Comment ces utilisations, alors si on utilise ce terme-là, finalement se partagent ?
On a la chance, je dirais, en France, d'avoir des institutions publiques qui se préoccupent assez bien de l'eau. On a des agences de l'eau par grands bassins de fleuves qui sont très ouvertes au dialogue avec les différents usagers, mais aussi avec les citoyens. Donc les agences de l'eau sont un rouage très important des institutions publiques. Et les syndicats de bassins ou de rivières sont aussi des organismes publics très intéressants et très progressistes à découvrir.
Alors, des institutions qui s'emparent de cette question-là, mais des citoyens aussi qui s'en emparent, et c'est votre cas, avec SOS Loire Vivante. Ça, c'est une aventure à laquelle vous avez participé. Alors, quand je dis aventure, c'est peut-être pas le terme, mais c'est une mobilisation citoyenne, effectivement, avec des réflexions autour de la construction de barrages, etc. Et ça, c'était dans le début des années 80, ça veut dire que cette question-là, elle préoccupe quand même depuis longtemps.
Oui, l'inondation de Brive-Charensac en 1981, tout le monde s'en souvient, en tout cas ceux qui l'ont vécu de près ou de loin. À l'époque, ça faisait vraiment l'actualité, il y avait eu quand même cette victime. C'est vrai que ça pouvait sembler paradoxal à l'époque d'avoir été présent sur les lieux de ce drame et de vouloir en même temps protéger et sauvegarder la vallée de la Loire en luttant contre le barrage qui était prévu à Chadron, Serre de la Fare. Mais en fait, c'était pas vraiment contradictoire. Il est possible à la fois de sauvegarder les biens et les personnes et de sauvegarder aussi les ressources naturelles dont on a de plus en plus besoin pour faire face au changement climatique.
Alors là, on touche quand même à la politique, c'est-à-dire à l'investissement, à l'aménagement du territoire. Et la politique, elle a son rôle dans les décisions et dans ce que vivent les citoyens aujourd'hui. Comment on s'engage, comment vous vous engagez pour faire entendre vos voix, faire entendre des expertises, faire entendre également des études, pourquoi pas, qui sont amenées par des personnes indépendantes. Comment on arrive à interagir avec ceux qui nous gouvernent, alors je le dis entre guillemets parce que ça, des fois c'est une échelle un peu plus locale, même si c'est quand même une vision nationale aussi et une vision internationale pour la raréfaction de l'eau, mais comment on arrive à construire finalement des discussions, si c'est possible, avec les dirigeants ?
Avec SOS Loire Vivante, on avait réussi, à partir d'un problème très conflictuel, construire ou pas un barrage pour empêcher une catastrophe naturelle avec des victimes. On était parti donc d'une situation assez conflictuelle et on est arrivé à un résultat absolument fabuleux, dans le sens où le gouvernement a fini par entendre raison, à entendre la voix des citoyens, mais aussi des scientifiques qui se sont engagés auprès des citoyens. Et nous avons réussi, avec l'État, à mettre en place le plan Loire Grandeur Nature, avec Michel Barnier, qui était à l'époque ministre de l'Environnement. Et ce plan Loire Grandeur Nature a été mis en place en 1993 et sera reporté jusqu'en 2027. C'est ce qui a permis de faire de la Loire le dernier fleuve sauvage et vivant d'Europe, grâce justement à l'action de citoyens qui se sont concertés, qui se sont mobilisés, qui ont trouvé l'appui scientifique qu'il leur fallait pour faire entendre leur voix et défendre leur point de vue, qui pouvait passer pour assez paradoxal après une catastrophe pareille.
Sortons un peu de nos frontières, on va aller du côté de l'Espagne, parce qu'il est effectivement cité le fait que vous étiez activiste à un moment donné pour une lutte contre le plan hydraulique national espagnol. Là aussi, c'est un État qui s'empare de cette question-là, qui imagine des projets et sans penser finalement aux décennies futures. Expliquez-nous un peu ce qu'était ce plan hydraulique national espagnol.
Le PHNE était un programme vraiment pharaonique, issu donc du gouvernement espagnol de l'époque, qui prévoyait 120 nouveaux grands barrages et le transfert de l'Ebre, qui est l'équivalent du Rhône, et qui arrive par un delta en dessous de Barcelone jusqu'à la Méditerranée, un transfert de l'Ebre sur 1000 km de pipeline, on va dire, en direction des serres, des mers de serres en plastique et du tourisme de masse. Donc ce plan était vraiment démesuré face aux besoins réels de l'Espagne, parce qu'à l'époque l'Espagne n'était pas encore soumise au changement climatique comme à l'heure actuelle, et l'Espagne ne manquait pas tellement pas tant d'eau que ça, elle manquait plutôt d'une politique de la gestion de l'eau qui était plus de l'ordre de gérer la demande en eau et son offre. C'était plus un problème, voilà, de répartition des usages et de la gestion de l'usage. Le dictateur Franco adorait les grandes infrastructures comme les barrages, et donc l'Espagne est un pays qui est largement équipé d'infrastructures de ce type-là.
Alors, largement équipé, on note aussi, hein, des fois, il suffit de se promener un peu dans les terres en Espagne, on voit ces champs de serres, et on voit même des camions amener de l'eau, des camions-citernes. La sécheresse oblige, on fait venir des camions remplis d'eau aussi, ça c'est une réalité.
Oui, c'est une réalité qu'on commence même à vivre au niveau de l'eau potable dans le midi de la France. Maintenant, chaque été, la raréfaction de cette ressource est plus que préoccupante. On est face, avec le changement climatique, au trop d'eau avec les inondations et l'érosion, ou pas assez d'eau avec les sécheresses et les chaleurs extrêmes.
Alors l'eau, on en a besoin, c'est vital, mais ça nous nourrit aussi, parce que l'eau, c'est ce qui permet finalement de faire pousser dans les champs, les cultures, etc. Donc il faut tous se retrouver autour d'une table, notamment table ronde pour le forum Partageau, qui est l'agriculture demain en considérant l'eau comme un bien commun, vous y participez. La discussion, elle est importante avec le monde agricole ?
Elle est primordiale à l'heure actuelle, parce que l'agriculture est une question éminemment politique. Elle concerne vraiment, vraiment tous les citoyens et les citoyennes du pays, au niveau local, régional, national, international. C'est une interrogation majeure à se poser face notamment au dérèglement climatique, à la santé publique.
Alors, comment on discute entre citoyens, entre agriculteurs, entre institutionnels ?
Il me semble que les agriculteurs auraient tout intérêt à s'ouvrir aux idées écologistes, Le monde agricole devrait pouvoir s'entendre beaucoup mieux avec le monde écologiste. Un grand dialogue devrait s'ouvrir entre les agriculteurs et les écologistes. Les uns comme les autres ont des intérêts communs et ont vraiment besoin de se comprendre et de s'entendre. Les écologistes ont beaucoup de solutions à apporter aux agriculteurs et je pense que c'est plutôt un débat qui est faussement biaisé de façon à diviser pour mieux régner.
Alors, diviser pour mieux régner, c'est aussi la dictature du productivisme. Le profit, et c'est quand même au cœur aussi du sujet, parce qu'effectivement, l'eau est utile, mais l'eau sert aussi des intérêts économiques.
On ne peut pas méconnaître les difficultés sociales et économiques des agriculteurs et effectivement, on ne peut pas leur jeter la pierre, parce que leur jeter la pierre, c'est se jeter la pierre à soi-même. Depuis les années 50, que ce soit producteur ou consommateur, nous avons été tous pris dans le même, je dirais, piège de la surproduction et de la surconsommation. Nous devons nous montrer tous solidaires face au changement climatique et remettre en question les puissance, je dirais, économique, qui nous ont poussés dans toutes ces impasses, alors que, et c'est vrai que pendant plusieurs décennies, tout nous semblait à la fois agréable, facile et pas cher à faire, à produire ou à consommer. Mais c'est vrai que maintenant, il faut revoir tout ça de façon à être très solidaire, à se montrer très solidaire face au nouveau paradigme du climat qui commence maintenant à être vraiment préoccupant.
Faudrait-il encore avoir les clés de compréhension et c'est tout l'intérêt et le but finalement du forum départemental Partage Eau, troisième édition, hein, on le dit pour ce 15 novembre, où là chacun est invité finalement à venir assister à des discussions, à se nourrir d'informations, etc. Alors pourquoi vous y participez? Vous y avez été invité, mais ce genre d'événement, en quoi c'est utile pour vous dans vos démarches et puis en quoi c'est utile finalement pour tous les concitoyens?
Je serai présente parce que je me suis effectivement beaucoup préoccupée de l'eau et du climat pendant plusieurs décennies maintenant, en tant que citoyenne éclairée, je l'espère. Et puis parce que je souhaiterais donner un petit peu plus de visibilité aux petits cycles de l'eau. C'est l'évapotranspiration issue des surfaces naturelles, comme les forêts, les prairies naturelles, et qui, en fait, sont à l'origine de 70% des précipitations sur les continents. Très souvent, on pense que ce sont les mers, les océans qui fournissent les pluies et les précipitations au continent. En fait, non. Ce sont les sols naturels et la végétation naturelle qui, par évapotranspiration, fournit les nuages de pluie qui se condensent ensuite en pluie, en neige. Et quand on sait ça, on comprend que l'artificialisation des sols est un problème majeur à l'heure du changement climatique. Car au lieu de produire de la vapeur rafraîchissante et humidifiante, les sols artificialisés produisent, eux, maintenant, de la chaleur. Une quantité de chaleur qui n'était pas produite auparavant et que l'effet de serre capture comme un couvercle, au même titre que les radiations solaires qui devraient retourner dans l'espace et qui ne peuvent pas.
Donc on entend ici la bétonisation des sols, mais pas seulement, c'est haies dans les champs qui ont disparu, c'est lisières de bois qui sont débroussaillées pour éviter les nuisibles, etc. C'est un changement quand même de comportement que l'on doit adopter.
Oui, on est en face d'un nouveau paradigme, celui d'un climat déréglé, et il va falloir maintenant s'adapter à ce paradigme en changeant notre façon de voir et de gérer le territoire. Ça demande une nouvelle vision de l'aménagement du territoire, grâce notamment aux solutions fondées sur la nature, qui trouvent un écho maintenant des plus grandes instances internationales comme l'ONU, ou jusqu'aux agences de l'eau dont je parlais tout à l'heure.
Alors aujourd'hui, est-ce que cette question-là, de votre point de vue, est traitée d'une bonne manière, politiquement? Comment cette question-là est-elle prise par nos différents partis politiques qui existent sur le paysage français?
L'eau dans nos territoires est assez bien gérée grâce aux syndicats de bassins et de rivières qui font un travail souvent formidable. très, très, très progressistes en matière d'eau et d'environnement. Ils sont soutenus par des agences de l'eau qui, elles aussi, sont très ouvertes au dialogue citoyen. Mais je dirais que ces institutions publiques ont besoin aussi du soutien des citoyens et des citoyennes pour pouvoir renforcer leur action, pouvoir mieux diffuser aussi autour d'eux l'efficacité de leur action, leurs compétences, que ce soit mieux connu, de façon à pouvoir y participer de manière aussi éclairée que possible.
Elles sont ouvertes, on peut avoir ces rapports-là, hein, c'est disponible.
Tout à fait, ce sont des institutions publiques vraiment ouvertes au dialogue citoyen, et qui sont très demandeuses d'échanges avec la population. Donc je dirais que c'est aux populations de s'ouvrir à cet échange et de ne pas avoir peur de rentrer dans les comités de pilotage de ces institutions au travers d'associations de citoyens qui peuvent être créées assez facilement pour s'intéresser à ce qui se passe dans leurs ruisseaux, dans leurs rivières, et aider aussi les syndicats de bassin à pouvoir œuvrer plus sur la gestion du territoire au niveau des sols, notamment des sols agricoles et des sols urbains.
Il y a aussi le comportement individuel qui doit être plus, entre guillemets, responsable, hein, sans donner de leçons, mais chacun dans notre coin, on peut aussi agir, et là, d'une manière générale, en faveur du climat, contre le réchauffement climatique. On s'éloigne un peu de l'eau, mais effectivement, il faut qu'on change son mode de vie, entre guillemets, alors pas le chambouler, mais peut-être le modifier.
On peut tendre à beaucoup plus de sobriété, à beaucoup moins de consommation, à rechercher bien sûr autour de soi des produits fabriqués, produits transformés localement le plus possible. Au niveau des changements du comportement, je pense que celui dont je parle, de l'engagement citoyen sur la question de l'eau et des sols, c'est vraiment... une nécessité maintenant pour chacun et chacune de se préoccuper de ces questions-là, en se rapprochant de ces institutions publiques afin de renforcer leur action.
Alors en tout cas, le rendez-vous est donné pour ce forum Partageau, pour retrouver différents acteurs, différents citoyens engagés, pour vous retrouver Valérie Valette lors des différentes conférences et tables rondes de discussion. Partageau, c'est donc le 15 novembre, c'est Andrézieux-Boutéon à la salle des Bulieux. L'eau, un bien commun et un sujet citoyen, ça c'est un titre devant, sur le recto de la plaquette, le verso, c'est pour imaginer et construire un avenir durable de la ressource en eau. C'est aussi ces réflexions qui vont amener un changement et peut-être des modifications, et on l'espère, une meilleure gestion finalement de l'eau, et pour le bien de tous. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Andenne.
Merci beaucoup.